Chers étudiants, chers collègues, bonjour. Je suis Stéphane Citayel, professeur agrégé à l'Université d'Evry. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un seul documentaire intitulé The Heart of Whiteness de Rehad Desai. Pour ce faire, mon approche sera analytique, contrairement à notre collègue Anaël, qui vous a proposé un panorama. Elle aura donc toutes les qualités et tous les défauts, malheureusement, d'une approche analytique, puisque je vais vous proposer parfois des analyses très pointues. Voilà. Je tiens enfin à remercier Madame Brigitte Gauthier pour m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'être là. Merci encore. Fraction et infraction dans The Heart of Whiteness de Rehad Desai, les stigmates de l'apartheid. Après avoir consacré 6 films au thème de la diversité ethnique, le réalisateur Rehad Desai consacre toute sa réflexion à l'Afrique du Sud, avec le tournage de The Heart of Whiteness, sorti en 2005 sous l'égide des productions Uhuru qu'il dirige désormais. Dans ce documentaire de 48 minutes, dont le titre est un écho à Heart of Darkness de Joseph Conrad, roman britannique tragique publié en 1899, un siècle plus tard, eh bien Desai s'interroge sur l'identité des Afrikaners. Les Afrikaners, on vous l'a dit, ce sont bien sûr les Sud-Africains blancs, originaires d'Europe, qui tiennent à tout prix à se distinguer des Africains, des Noirs. L'un d'entre eux affirme « Nous ne sommes pas des Africains. En Afrique, nous ne sommes que des autochtones. Nous sommes des Afrikaners. » Desai analyse en particulier la haine qu'éprouvent ces Afrikaners à l'égard des Noirs, perçus comme un peuple barbare, susceptible de faire disparaître leur patrimoine culturel et leur langue, l'Afrikaans. Karel Boshoff, fondateur de la ville d'Orania, cette ville composée uniquement de Blancs, affirme « Le terme Afrikaner, s'il existe, est en péril. Nous risquons de perdre notre identité, d'être submergés par la diversité de l'Afrique, de disparaître des livres d'histoire. » Malgré la pertinence de cette étude sur l'identité Afrikaner, réalisée 10 ans après la fin de l'apartheid, 1995-2005, la critique s'est montrée insatisfaite, plus réticente notamment qu'à l'égard de son documentaire précédent, Born to Struggle, qui s'est vu décerner plusieurs récompenses. L'utilité de la critique tient à l'esthétique de la suggestion et du non-dit qui caractérise The Heart of Whiteness. À l'inverse de ses films précédents, Desai propose un mode de dévoilement plus oblique et cultive, du fait de ses origines sud-africaines et du fait de sa couleur de peau noire, une double approche, une stratégie de camouflage et d'exposition. Certaines perspectives historiographiques qui relèvent du tabou sont seulement suggérées en filigrane selon la technique du contrepoint. C'est uniquement en effet dans la superposition entre discours et images, dans une lecture connexe du monologue en voix off et des plans, que la théorie du réalisateur se dévoile. En l'occurrence, la corrélation entre fraction et infraction, entre une fraction ethnique et les infractions juridiques qui en découlent, entre division raciale et criminalité. Enfin, certains spectateurs n'ont pas perçu le second motif du film, pourtant aussi essentiel que le premier. Desai identifie le clivage ethnique en Afrique du Sud, ainsi que la ségrégation sociale, le crime et l'insécurité qui en découlent, comme les stigmates de l'apartheid. Il faut entendre par stigmate cicatrice, trace. C'est donc principalement la résistance d'un système politique, l'apartheid, qu'étudie Desai, à travers ses manifestations socio-culturelles et politiques, qui subsistent même après son éradication, mais cette fois dans le cadre d'une inversion des rôles de victime et d'agresseur. En effet, la mémoire du peuple sud-africain incite les anciens opprimés, c'est-à-dire les Noirs, à imposer aux Blancs un type de ségrégation comparable à celui qu'ils ont eux-mêmes subi. C'est pourquoi je vous propose, pardonnez-moi, une réflexion peut-être en 3 temps. Je vous propose tout d'abord d'analyser la corrélation entre frontières spatiales et frontières idéologiques, pour ensuite analyser plus précisément les mécanismes de cet apartheid inversé, puisque ce sont les Noirs qui font subir aux Blancs une forme de violence, et enfin s'interroger sur l'enjeu véritable du film, qui est une critique des Blancs. donc des victimes apparemment. Voilà. Et nous analyserons en particulier cette esthétique de l'alternance et de la superposition. Un contenu assez pointu, vous l'aurez remarqué, assez analytique. Afin de représenter la dualité qui caractérise la topographie de la nouvelle Afrique du Sud, Rehad Desai établit une corrélation entre territoire et identité. De même que le territoire façonne l'identité de l'homme, eh bien l'identité de l'homme façonne le territoire. Et le clivage socio-culturel qui oppose les blancs et les noirs est renforcé par des frontières spatiales. La configuration cartographique de l'Afrique du Sud se divise entre ces fameuses résidences dont vous nous avez parlé, Anaëlle, sécurisées où vivent les Afrikaners d'un côté, et les quartiers où vivent les noirs et les métis de l'autre. Chacune de ces communautés fréquente ses propres bars, ses propres restaurants, ses propres églises et surtout ses propres écoles. Afin d'exprimer cette dichotomie, Desai utilise des techniques cinématographiques très subtiles. À titre d'exemple, il n'utilise jamais de plan mixte où apparaîtrait par exemple un blanc et un noir. On voit systématiquement soit des blancs, soit des noirs. De même, il multiplie les images de clôture, de grilles, de barrages, indiquant accès interdit par exemple. Et la saccade d'introduction, sans parole, rappelle le film muet des années 20, le film muet sud-africain en particulier, car l'écriture et l'image se substituent complètement au discours. Malgré l'absence de tout commentaire, cela dit, les clichés qui se succèdent sont chargés de symbolisme. Un gros plan, par exemple, sur un article de presse intitulé « Nation divisée » est suivi de clichés où les blancs sont distingués des noirs, où les femmes sont séparées des hommes, et où les riches sont bien distingués des pauvres. On voit par ailleurs une grille noire se refermant sur une vieille dame blanche qui quitte le champ de la caméra vers la droite. Et cela symbolise bien sûr la fermeture sur un avenir funeste. L'utilisation du contrepoint, système musical polyphonique, où se superposent deux lignes musicales, soit harmonieuses, soit discordantes, permet à Desai de se livrer à une critique tacite, oblique. La bande-son en particulier contredit souvent le discours des Blancs. Lorsqu'un Afrikaner glorifie les bienfaits de la séparation ethnique, eh bien la musique vient contredire son discours. À titre d'exemple, on entend une musique donc extra-diégétique, mise au montage, qui ne fait pas partie de la trame du film. Une musique extra-diégétique composée d'accords mineurs et d'un ostinato funeste, qui crée un gros décalage avec le discours joyeux que l'on entend. Et c'est pourquoi la musique, dans ce documentaire, est un véritable langage, un langage à part entière, presque une forme de modalisation, puisqu'elle exprime la prise de position du réalisateur. The Heart of Whiteness déploie toutes les caractéristiques du road movie, genre dynamique qui se caractérise par la progression du personnage principal vers des espaces et des lieux enrichissants. La trame du film est rythmée en particulier par la progression du réalisateur vers le village d'Orania, via trois banlieues, Standerton, Killarney et Bethlehem. Or, ce cheminement spatial vers Orania correspond également à un cheminement idéologique. Plus il s'approche de cette zone qu'il qualifie d'enclave séparatiste pour blanc, plus le sentiment de racisme se fait sentir. Les Afrikaners de Killarney, banlieue située à 800 km d'Orania, sont accueillants et coopératifs, tandis que les Afrikaners de Standerton se montrent extrêmement violents à l'égard du réalisateur, qui évite de justesse une agression. Lorsque Desai demande à un résident blanc s'il a déjà eu une relation avec une noire, celui-ci devient agressif et contraint le réalisateur à interrompre le tournage. Desai affirme alors « La conversation se dégrade rapidement quand j'aborde la question des relations mixtes. Très vite, nous devons interrompre le tournage. Ce serait pure folie de rester ici, et je décide alors de quitter les lieux. » On retrouve alors tous les effets typiques des documentaires réalisés en direct, avec des mouvements de caméra vers le bas, des plans saccadés, et la nécessité de se limiter à un enregistrement audio uniquement et non plus vidéo. Toutes ces tensions entre blanc et noir se cristallisent dans le mariage interracial, perçu comme union anormale et avilissante. Les enfants qui en sont issus sont rejetés par les deux communautés. Lorsque Desai interroge une Afrikaner retraitée, Hattie Kesselman, et lui demande Quel serait votre sentiment si un jour votre petite fille rentrait à la maison accompagnée d'un noir et vous disait « Mamie, je te présente mon petit copain ». Hattie Castleman répond « Oh, j'espère être morte avant que cela ne se produise. Sinon, je creuserai ma propre tombe, 6 pieds sous terre. » Lessa, elle répond alors « Ce serait trop… » Elle répond « Oui. » Ce dialogue elliptique, composé de phrases incomplètes, reflète bien le tabou qui entoure le mariage interracial. Ces fractions spatiales entre les deux identités distinctes qu'elles font naître affectent aussi bien la société que l'économie d'Orania, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais utilise depuis 2004 sa propre monnaie. Si vous allez à Orania, vous devrez utiliser l'aura, monnaie restreinte au village, par mesure de sécurité contre le vol. Dans ce village composé uniquement de blancs, le système éducatif repose sur une pédagogie fondée sur l'auto-apprentissage aussi, de manière à ce que les Afrikaners puissent gérer eux-mêmes leur village sans l'aide des Africains. Alors on comprend l'amertume du réalisateur. Se rendre dans ce village, c'est en quelque sorte voyager dans le temps, dans le passé, à une époque où l'apartheid était encore en vigueur. La fraction identitaire qui sépare les deux ethnies de la nouvelle Afrique du Sud suscite par ailleurs des infractions. Desai définit la violence exercée par la communauté noire comme une réaction contre l'apartheid. Il souligne alors une problématique différente, une problématique historiographique célèbre pourtant. C'est cette articulation entre rupture et continuité. On l'utilise notamment pour les changements de régime, la Révolution française par exemple, entre rupture et continuité. Et ici, il s'interroge sur l'héritage de l'apartheid. Le climat d'insécurité dans lequel vivent les Sud-Africains blancs, les agressions, les cambriolages, les insultes, correspondraient en réalité à des mesures de représailles de la part des Noirs destiné à se rétribuer après avoir subi les régulations injustes d'un système pourtant éradiqué, 10 ans plus tôt. Cette idée se confirme avec le témoignage de Denise Gaffen, résidente de Killarney, blanche, qui distingue deux Afriques du Sud et qui assimile l'évolution sociale du pays après l'apartheid à une régression. Celle-ci affirme « Killarney est devenu un taudis, c'est dégoûtant. J'habite ici depuis 1969 et à l'époque c'était une banlieue réservée à la classe supérieure. Mais tout a changé, rien ne marche, aucun système ne fonctionne. La circulation, les immigrés clandestins, rien n'est plus sûr. » Le recours à la forme négative et l'utilisation de figures de répétition est typique de l'esprit contestateur des Afrikaners. Et alors, bien que The Heart of Whiteness représente la résurgence d'un système où les anciennes victimes ont endossé le rôle d'agresseurs, eh bien le réalisateur a toutefois tendance à omettre les crimes commis par les Noirs et à stigmatiser le racisme des Blancs, offrant ainsi une vision historiographique originale mais superficielle. En effet, malgré la diversité des intervenants locaux, on entend des enseignants, des fermiers, des concessionnaires, malgré cette diversité, les formes de violence extrêmes que subissent les Blancs, les Afrikaners, ne font l'objet d'aucune mention. Tous les Afrikaners interrogés dans le documentaire ont été victimes de cambriolages ou d'insultes. Mais absolument rien n'est dit sur le meurtre de nourrissons, par exemple. Rien n'est dit sur le viol de femmes blanches, agressées, poignardées. Entre 1994 et 2012, 2% des Sud-Africains blancs, soit 80 000 personnes, c'est un gros chiffre, ont été tués par des Noirs, justement. Et cette omission de la part du réalisateur est stratégique, puisqu'elle elle a pour but de réconcilier les deux nations, de ne pas susciter la haine. Favoriser la diversité ethnique est donc un enjeu plus important que le souci d'authenticité historique. Aux yeux de Réa Desai, en tout cas, lui-même ancien exilé politique d'Afrique du Sud. Si dans la plupart de ses films précédents, l'exactitude des faits historiques était une priorité, eh bien dans ce documentaire, au contraire, la subjectivité de l'artiste prend le dessus sur l'objectivité de l'historien. The Heart of Whiteness souligne toutefois les failles du système politique sud-africain. Dans cette forme d'apartheid inversé, la jeune démocratie apparaît davantage comme un principe de jure, plutôt qu'un système de facto. Je pense notamment à M. Derderwe, un fermier, qui parle de la démocratie et qui affirme « Mais j'ai aucun problème avec la démocratie, moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour moi, la démocratie? Je suis un travailleur intègre et honnête au sein de la Nouvelle-Afrique du Sud. Je me lève le matin, je vais travailler, mais quand je rentre chez moi le soir et que je m'aperçois que l'on a cassé ma fenêtre, que ma télévision a atterri sur ma pelouse dehors, qu'on a vidé mes commodes, qu'on a volé mes vêtements, elle est où la démocratie ? pour ce fermier pragmatique au registre familier, la démocratie n'est qu'une idée illusoire. C'est comme si les Blancs devaient être redevables vis-à-vis des Noirs pour les injustices que ces derniers ont subies lors de l'apartheid, comme s'il existait une dette virtuelle. Enfin, malgré l'inversion apparente des rôles d'agresseurs et de victimes qui caractérisent la population africaine, sud-africaine depuis 1994, ce sont aux Afrikaners, c'est-à-dire aux victimes, aux Blancs, que Desailles impute la responsabilité d'une criminalité grandissante. Celui-ci affirme « Il est vrai que le taux de criminalité est élevé en Afrique du Sud, mais je me demande à quel point cette obsession pour la criminalité tient à la séparation que cultivent les Blancs en se tenant à l'écart des Noirs. » Desailles explique que la couleur de peau ne correspond pas seulement à un attribut physique, mais à toute une identité sociale. Il affirme encore « La blancheur n'implique pas seulement une peau claire et les cheveux lisses. Ceux qui revêtent une identité de blanc le font afin de jouir des nombreux avantages psychologiques qui en découlent. » Cette théorie est confirmée par les propos du chef politique d'Orania, cette ville composée uniquement de blancs, Karel Boshoff, qui refuse catégoriquement le mélange des cultures. Il affirme « Nous ne pouvons pas bâtir de communauté multiculturelle. Nous souhaitons construire une communauté monoculturelle. » Des termes intéressants. La notion d'enclave séparatiste pour blancs, qu'utilisent les réalisateurs, est donc justifiée par les nombreuses conditions que vous devez remplir si vous souhaitez être résident de cette ville. Si vous souhaitez habiter à Orania, vous devrez remplir plusieurs conditions. La première, vous devez être blanc. La deuxième, vous devez être afrikaner. La troisième, vous devez parler l'afrikaans. La troisième, la quatrième, vous devez privilégier la culture afrikaner au détriment de la culture africaine noire. Pas de musique sud-africaine, par exemple. Voyant qu'il ne parvient pas à convaincre les afrikaners des bienfaits de la diversité ethnique, eh bien le réalisateur utilise une technique indirecte. Il choisit de superposer des discours historiques qui se répondent et qui se substituent à ses propres discours. L'argumentation de ce fondateur, de Karel Boshoff, est donc interrompue par le discours de Nelson Mandela sur l'égalité raciale donnée en 1995, lors de sa visite justement de la ville d'Orania. Et cette alternance crée un décalage entre la tolérance de Nelson Mandela et le dogmatisme de Karel Boshoff. On voit donc des discours qui se substituent clairement. Karel Boshoff commence à dire « Nous ne pouvons pas bâtir une communauté reposant sur des différences fondamentales, sur des divergences culturelles. Nous souhaitons vivre dans une communauté monoculturelle. » Tout de suite après, Desailles nous montre le discours de Mandela. « Je souhaite que nous soyons tous unis ici en Afrique du Sud et que nous cessions de raisonner en termes de couleur. Il nous faut penser en termes de compétences et de mérites. Nous avons des écoles ouvertes où nos enfants, blancs et noirs, partagent un espace commun. Et vous allez voir que l'émergence de cette nouvelle génération va réduire la discrimination ethnique. » Encore une fois, Karel Boshoff intervient. « Nous ne voulons surtout pas que le monde devienne un mélange de toutes les cultures et de toutes les langues. » L'alternance de ces deux discours montre que l'héritage de Nelson Mandela, dont l'optimisme est ici un repoussoir aux allusions ségrégationnistes de Boshoff, n'a pas été honoré 10 ans plus tard. Et c'est cette esthétique de l'interruption et de l'alternance qui confère à ce documentaire toute sa puissance argumentative. C'est pourquoi le montage est un moment clé de ce film qui expose avec subtilité l'hypocrisie des afrikaners. Un tout dernier exemple, avant de conclure, Desailles élabore une scène dans laquelle un prêtre d'Orania exhorte sa communauté à aimer son prochain. Mais il le fait juste après avoir filmé une dame de la même congrégation religieuse avec des propos extrêmement racistes. C'est donc cette superposition qui est intéressante. Les 20 dernières minutes du film prennent une dimension historique et didactique. Des images en noir et blanc, accompagnées d'une voix off, rappellent l'hégémonie des afrikaners durant l'apartheid, rappellent la souffrance des noirs durant l'apartheid, et désarçonnent ainsi les blancs de leur statut de victime, qui est assimilé à une posture ici. Desailles établit ainsi une analogie entre les origines de l'apartheid, née d'une peur excessive que ressentaient les blancs à l'égard des noirs, et la paranoïa actuelle des afrikaners, présenté comme une menace potentielle. Selon Desailles, on pourrait très bien revenir à un système d'apartheid. Karel Boshoff affirme par exemple « L'Afrique est en train de s'africaniser », propos visiblement raciste. Pour conclure, il faudrait dire que le réalisateur lui-même conclut qu'en 2005, 10 ans après la fin de l'apartheid, la nouvelle Afrique du Sud n'est pas si différente qu'en 1995. du moins d'un point de vue idéologique. Les mesures politiques entreprises après l'élection de Mandela n'ont pas abouti au mélange ethnique et culturel attendu. L'apartheid, qui est un terme afrikaans qui signifie « séparation », est toujours en vigueur, sinon de jure de facto, sinon dans les textes, dans les rues. Malgré son parti pris, De Saï propose une vision authentique de l'histoire actuelle, qui se termine, tout comme « Heart of Darkness », mentionné plus tôt, sur une impasse, sur une vision catégorique de la fraction entre blanc et noir. J'aime beaucoup la technique finale qui clôt le film. Le film se termine brutalement sur la remarque méprisante de M. Dernerwe, qui se révolte contre le mariage interracial. Et il affirme que voir le mariage interracial à la télé, c'est horrible, et il faudrait en plus que je paye la redevance télé pour regarder cette merde, hors de question. Après quoi, une ligne de mire horizontale clôt le documentaire et laisse place au générique final. Vous savez, c'est ce procédé rétro, typique des vieux téléviseurs, qui sont toujours utilisés d'ailleurs en Afrique du Sud, du moins en 2005, et qui souligne la nécessité de moderniser ce pays, de démocratiser ce pays. L'enjeu du film est donc de répandre la paix plutôt que la haine. Et c'est pourquoi The Heart of Whiteness est diffusé sur certains sites d'hébergement vidéo gratuits tels que YouTube. Vous pouvez donc le voir. Le spectateur est ainsi amené à envisager l'équation entre système monoculturel et discorde, ainsi que la corrélation entre diversité et paix. Enfin, De Saï montre deux facettes du réalisateur, et c'est ce qui m'a paru intéressant, car le réalisateur peut être aussi bien artiste qu'historien. Merci.